Merci Samuele, merci l'assessore, sto fatta per lei Samuele, ma non è a me allora, c'è più la confianza. Beh, je te remercie surtout pour la dernière phrase, quand tu parles d'être calabrese et d'être fier d'être valdôtain. Et maintenant, moi je suis moitié vénitien, moitié méridionnais, et selon moi, la beauté de la pensée genoussienne, mais la beauté d'être valdôtain, c'est d'avoir plus d'une identité. C'est pas oublié maintenant, dans le 2021, c'est impossible d'être seulement une chose. On est tout quelque chose de plurilingue, pluriculturel, et c'est la chose, c'est la jolie chose d'être européen, citoyen d'Europe, d'être fier d'être valdôtain, d'être européen et d'être autre chose. No, merci Samuele. Maintenant, passo la parola alla dirigente d'educazione, Madame Gabrielle Vernetto.
Bon, monsieur le sénateur, monsieur les assesseurs, monsieur le président de la fondation, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette invitation qui m'honore et qui m'a permis de réfléchir au système scolaire valdôtain et dans une perspective européenne, mondiale, au XXIe siècle. Alors, les intervenants qui m'ont précédé et monsieur Celi dans son article qui analyse et problématise la pensée chanoisienne vis-à-vis de l'école ont mis en évidence les préoccupations et la vision de Chanou sur l'éducation. Alors, il y a deux points qui ont retenu mon attention et parce que je les trouve d'une grande actualité. C'est l'idée que l'école doit être le lieu de diffusion d'une culture qui sera à la base du développement de notre société. Et l'autre, c'est une perspective de redynamisation de ce même territoire, et où la conservation de la mémoire est à la fois comme une ressource, comme un héritage qui est légué, mais en même temps comme un levier, pour repenser le futur. Donc c'est autour de ces deux idées, hein, que je développerai mon intervention. Après 77 ans, bien évidemment, le monde a changé et nous sommes entrés dans le 21e siècle, une époque qui se caractérise par un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui, au cours des dernières décennies, a pris de l'ampleur, c'est la mondialisation. Alors, dans son essai consacré à la mondialisation en 92, le sociologue britannique Robertson définit ce concept comme un phénomène qui renvoie, je cite, à la fois à la compression du monde et à l'intensification de la conscience du monde comme totalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le premier aspect, la mondialisation en tant que compression du monde, est la conséquence d'une mobilité accrue des gens et d'une circulation massive des biens et de marchandises. Je précise, j'ouvre une parenthèse pour préciser mon propos. Quand je parle de mobilité des gens, je me réfère pas seulement au mouvement migratoire des populations qui quittent leur pays pour des raisons économiques, climatiques ou d'instabilité politique, mais également aux mobilités des jeunes liées au parcours d'études et de profession, de travail à l'étranger, de longue ou de courte durée, parfois qui se soldent par une expatriation définitive. Le projet de la Fondation Chanou, d'ailleurs, sur les nouveaux émigrés et la série de rencontres sur les Valdôtains dans le monde en est un excellent exemple. Alors, quelques aspects saillants de ce phénomène, bon, sont la délocalisation des produits, des biens et des marchandises, le développement des transports internationaux qui permettent aux gens et aux marchandises de circuler librement dans le monde entier, mais aussi le développement technologique qui facilite la collaboration à distance, la communication de masse à l'échelon international. Bah, nous sommes là devant un écran et nous pouvons communiquer malgré les distances, mais cette communication facilitée qui permet à tout un chacun de poster un billet sur Facebook en Alaska et ce billet est lu en Australie, pose un problème de taille, c'est-à-dire la fiabilité de l'information. et ceux qui s'occupent d'éducation ne peuvent pas ignorer ce phénomène. Donc, notre perception du monde s'est éloignée, s'est modifiée. Et donc, ce qui est éloigné devient proche, et ce qui est proche, des fois, est éloigné, dans le sens qu'il est loin de nos préoccupations. Et notre vision du monde dépend de la proximité temporelle plus que de la proximité spatiale. Et c'est accru, c'est accentué à cause de la COVID. Nous pouvons passer la journée enfermée dans notre bureau à communiquer avec le monde entier et ne pas savoir ce qui se passe dans le bureau à côté, chez mon voisin et ainsi de suite. Et donc, ce changement de point de vue annonce le deuxième aspect qui caractérise la mondialisation. L'intensification de prise de conscience du caractère global des enjeux de notre planète et particulièrement des problèmes qui la concernent, tels que le réchauffement climatique, l'exploitation massive de ressources, la pandémie. Et de l'autre côté, cette mobilité des gens favorise l'émergence, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'identités multiples, composites, pluriel, qui impose une réflexion sur la notion de citoyenneté. Donc, on parle désormais de citoyenneté mondiale, parce que nous devons être capables de vivre dans ce monde globalisé. Dans son essai « Identité meurtrière », l'écrivain franco-libanais Amin Malouf décrit son agacement quand quelqu'un lui demande de préciser si ce sont plutôt français ou libanais. Et à cette question, il répond invariablement l'un et l'autre. Non pas par un souci d'équité ou d'équilibre, mais parce qu'ils se sont à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de différentes cultures et traditions culturelles. Donc c'est justement cela qui identifie son identité. Le fait qu'il n'est ni moitié français ni moitié libanais du tout, parce que l'identité, comme il dit, ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, il dit, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier, qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Et vos témoignages de tout à l'heure renforcent cette idée, ce principe. Alors, quelles sont les retombées sur le système éducatif que ce changement de la vision du monde comporte? Le premier point, selon ce que nous avons vu précédemment, c'est éduquer local, mais penser global. Non seulement parce que les retombées de nos actes à l'échelon local auront des répercussions à l'échelon mondial, hein, c'est la fameuse métaphore du battement d'ailes du papillon au Brésil qui déclenche des tornades au Texas, mais aussi parce que nos jeunes, nous tous, mais en particulier nos jeunes, ce que nous devons former, seront amenés à vivre et à travailler dans un monde globalisé, à collaborer avec des gens qui ont des langues, des cultures, des habitudes différentes. Et donc, le rapport à l'autre, la capacité de gérer la diversité linguistique et culturelle, de savoir gérer les conflits éventuels, est capital. Nous devons éduquer les jeunes à vivre dans un monde de ce type. Mais un autre défi attend notre système éducatif, nos systèmes éducatifs. Nous avons une vision de l'école et de notre société comme une pyramide, hein, et l'école comme un levier, comme un moteur qui nous permet de remonter l'échelle. Donc l'école, comme on dit, est un ascenseur social. Or, le changement de notre société, des modes de production, de la globalisation ont transformé ce modèle et nous pouvons penser plutôt à des sociétés en forme de sablier où les parties supérieures et les parties inférieures se séparent de plus en plus. Nous avons vu par exemple que la pandémie a élargi la fourchette et les différences entre les personnes, je ne dis pas les peuples, hein, parce que même au sein du même peuple, il y a des personnes plus fragiles et des personnes plus aisées. Alors, ces deux mondes tendent à fonctionner en vase clos et nous courons le risque de laisser pour compte, de laisser de côté une partie de la société, notamment nos jeunes. Et le résultat, ce sont certains phénomènes auxquels nous assistons et qui, hélas, continuent de se diffuser. Je pense au chômage des jeunes, je pense à la précarité du travail des jeunes, je pense aux jeunes qui vivent presque à l'écart de la société, des phénomènes comme les no-life, ceux qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, aux hikikomori qui refusent de sortir. Et qui ne sont pas une exception et qui existent aussi sur notre territoire. Donc, citoyenneté mondiale, équité, inclusion, hein, voici les maîtres mots qui interpellent les responsables de l'éducation. Alors, quels sont les principes, les idées qui nous viennent à l'échelon mondial? Bon, les Nations Unies, dans l'agenda 2030, ont indiqué parmi les 17 objectifs prioritaires pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, et notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement et à la prospérité, à la paix, à la justice. L'objectif 4, qui concerne l'éducation, et nous dit que chaque enfant, jeune ou adulte, doit avoir accès à une éducation et à une formation qui répondent à ses besoins et au contexte dans lequel il vit. Donc, l'éducation doit contribuer à créer un monde plus sûr, plus durable, plus interdépendant. Mais en corollaire de cet objectif 4, l'UNESCO, hein, plaide pour une éducation à la citoyenneté mondiale, capable de développer des compétences, comme vous le disiez tout à l'heure, des valeurs et des attitudes dont les apprenants ont besoin pour construire un monde plus juste, plus pacifique, plus tolérant, plus inclusif, plus sûr et plus durable. Donc, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale? Ce sont des compétences essentielles que les générations présentes et futures doivent acquérir aujourd'hui pour trouver des solutions aux défis mondiaux de demain. Alors, venons à présent à l'Union européenne. Quelle est la politique de l'Union européenne en matière d'éducation? Bon, là, je vous rassure, je ne vais pas faire la synthèse de toutes les actions de l'Union européenne en matière d'éducation. J'ai pris deux éléments qui m'ont paru intéressants et cohérents par rapport à mon discours. Alors, c'est le fait qu'en 2020, la Commission européenne a adopté des initiatives pour renforcer la contribution de l'éducation et de la formation au redressement de l'Union européenne et contribuer à ce qu'on appelle un espace européen de l'éducation, qui est prévu pour 2025. Donc, dans cet espace européen de l'éducation, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut permettre à tous les jeunes de bénéficier du meilleur niveau d'éducation possible et de formation que ce soit, de trouver un emploi dans toute l'Europe. Par quels moyens? Favoriser la mobilité à l'étranger, promouvoir la reconnaissance des diplômes, promouvoir le plurilinguisme, et là j'ouvre une parenthèse, c'est le plurilinguisme dans le sens du document de 2008, un défi salutaire, comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe. Donc un plurilinguisme qui ne prend pas seulement en considération les grandes langues de communication, mais aussi les langues régionales, les langues des peuples. Donc, on revient à cette vision du plurilinguisme. Et puis, la maîtrise de deux langues en plus de la première langue de scolarisation. Donner accès à une éducation de qualité et au patrimoine européen. Avoir la conscience d'un patrimoine commun et de sa diversité et de sa richesse. Parce que la force de l'Europe réside dans sa diversité linguistique et culturelle. Donc, c'est intéressant, cette démarche est intéressante parce que l'Union européenne nous donne des objectifs, nous donne des ressources économiques parce que les financements pour réaliser cet espace européen de l'éducation sont importants. Mais puis, ce sont les États membres qui doivent construire cet espace européen, qui doivent collaborer entre eux pour le réaliser. À travers quoi ? Ben, à travers des projets européens de mobilité. Alors, je vous propose quelques exemples concrets qui concernent la Vallée d'Aoste. Il s'agit de projets Erasmus+, auxquels nous participons, hein, l'assessorat de l'éducation participe, et qui implique les écoles de notre région. En particulier, il y a deux projets d'ICO+, qui se proposent de diffuser l'enseignement coopératif chez les jeunes, et Camille Alla, qui est un projet d'inclusion sociale par l'ouverture aux langues et aux cultures. Mais le projet sur lequel je voudrais m'attarder davantage, c'est Green Seeds. Green Seeds, c'est un projet qui vise à rompre l'isolement de petites communautés décentralisées, des écoles de montagne ou des petites îles, et qui courent le risque de voir leur isolement géographique se transformer en privation culturelle et isolement social. Alors, ce projet Green Seeds veut renverser la vapeur et montrer qu'en réalité, justement grâce au lien avec le territoire, grâce au lien avec le milieu naturel, ces écoles de montagne, ces communautés de montagne sont des ressources et sont des ressources pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans ce projet ? Bon, les enseignants ont suivi une formation et ils ont travaillé avec leurs élèves en binôme, hein, parce que vous savez que les projets européens impliquent plusieurs partenaires. Et donc, l'école Val d'Autène, l'école Abbé Trève, qui participe à ce projet, collabore avec une école espagnole. Et ils ont réalisé une enquête sur le web qu'ils proposeront l'année prochaine à des élèves, des collégiens, qui vivent en ville, pour qu'ils découvrent les avantages, le potentiel, les ressources des zones de montagne, des villages de montagne, des écoles de montagne. Et donc, ce projet a été retenu par la Commission européenne comme un projet de qualité, comme une bonne pratique. Et les enseignants de l'école et l'assessorat ont été invités à participer aux travaux de la Coalition pour l'éducation au climat, qui est un groupe de travail qui est en train de réfléchir à l'éducation au climat à l'échelon européen et qui est une des initiatives phares de ce fameux espace européen de l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Alors bon, là bien évidemment je vous ai illustré des projets d'excellence qui concernent une partie des écoles Val d'Autène, hein, des écoles qui participent à ces projets. Mais j'analyserai dans la dernière partie de mon intervention le système Val d'Autène dans son ensemble, à la loupe de quatre axes. L'égalité des chances, que nous avons vu être l'un des thèmes importants qui ont été portés à notre attention. L'éducation à la citoyenneté et la promotion du plurilinguisme, et puis l'éducation numérique et aux médias et à l'information. Alors, concernant l'égalité de chance, notre système permet, est gratuit pour tous nos élèves jusqu'à la fin du secondaire, et permet, et les manuels scolaires aussi sont gratuits, donc les familles n'ont rien à dépenser pour cela. Et c'est un enseignement en deux langues, depuis la maternelle, en trois langues, voire en trois langues, parce qu'à partir de l'école primaire, on commence l'enseignement de l'anglais. Et c'est un système qui intègre de plus en plus la tranche d'âge 0-3 ans, Vous savez qu'il y a eu cette réforme à l'échelon national du système intégré 06, où les structures pour la petite enfance doivent devenir des structures éducatives et non seulement des garderies, dans une perspective d'éducation de 0 à 19 ans ou tout au long de la vie, dans notre contexte de 0 à 19. Nos élèves ont des bons résultats aux tests nationaux INVALSI, ce qui montre la qualité de ce système, et ont aussi des bons résultats aux tests de langues régionaux. Hein, vous savez que pour la langue française, nous avons des tests qui certifient un certain niveau atteint. Égalité des chances aussi à travers une attention accrue pour les élèves à besoins spéciaux, hein, qui sont soutenus tout au long de leur scolarité. Je passe maintenant à l'éducation à la citoyenneté. Bon, là aussi, nous sommes forts, nous pouvons dire. À partir donc de cette année scolaire, l'enseignement de l'éducation civique est obligatoire. Mais nous nous sommes dotés de lignes d'orientation pour l'éducation civique régionale qui insistent sur l'importance de découvrir le territoire, d'intégrer le territoire et d'interagir avec les acteurs de ce territoire. Parce que c'est comme ça qu'on devient de bons citoyens. Et pour ce faire, nous avons publié un support qui s'intitule La nouvelle citoyenneté, qui prend en compte les spécificités de ce territoire. En plus, des réseaux d'établissements scolaires qui collaborent, qui travaillent ensemble pour l'éducation à la citoyenneté ont été créés ou sont en phase de création. Nous avons créé un catalogue de l'offre éducative où les établissements scolaires peuvent retrouver tous les projets qu'ils peuvent réaliser dans les classes pour renforcer cet enseignement de l'éducation civique. L'autre point que je voulais aborder, c'est celui de la promotion du plurilinguisme et donc de l'éducation à la diversité linguistique et culturelle. J'ai déjà évoqué le fait que les deux langues, voire trois langues, voire quatre langues dans la communauté valsaire sont enseignées, hein, parce qu'en plus de l'italien, du français et de l'anglais, les enfants de la communauté valsaire apprennent l'allemand aussi, que ces langues-là sont utilisées dans les disciplines, donc pour enseigner les disciplines, que dans notre curriculum scolaire, on prévoit une éducation à la diversité linguistique et culturelle que vous soulignez tout à l'heure, hein, l'importance d'être ouvert à l'autre, d'être curieux vis-à-vis d'autres langues et d'autres cultures, est intégrée dans notre curriculum. Et là, je peux vous dire que la Vallée d'Aoste accueille des chercheurs et des inspecteurs, des formateurs de l'Europe entière, du monde entier, qui viennent étudier notre système scolaire, qui vont dans les classes, qui rencontrent des responsables de l'éducation pour voir comment nous mettons en pratique cette éducation linguistique intégrée. J'arrive enfin au numérique et à l'éducation aux médias et à l'information. Bien évidemment, la pandémie a mis en évidence nos limites et les aspects critiques de l'utilisation du numérique dans nos classes, dans nos écoles. Mais il faut dire que nous partions déjà comment dire, d'un système assez élargi, répandu et consolidé, dans le sens que nous avons un système régional qui permet d'exploiter les ressources Google pour l'éducation, que tous les enseignants ont des adresses mail institutionnelles, que tous les établissements scolaires ont la possibilité d'avoir des espaces partagés, des classes virtuelles, des visioconférences organisées par Meet. Donc, c'est tout en comment dire, ce sont des ressources importantes sur lesquels nos écoles et nos enseignants ont pu s'appuyer pendant la période du confinement. Et après, j'aimerais rappeler un projet, là aussi un projet européen, un projet Interreg de coopération internationale, c'est Parcours civique et professionnel à montagne, qui implique 8 établissements scolaires de la Haute-Savoie et 4 établissements scolaires à Val d'Autun, et qui est axé sur la mise en œuvre de résidences journalistiques, de chantiers engagés et de journées de rencontres transfrontalières. Donc, les élèves travaillent avec des professionnels du journalisme et à la réalisation de véritables produits, que ce soit de la presse écrite, de la radio ou télévisée, et en classe et sur le terrain. Et les contenus de cette éducation aux médias sont justement la découverte des métiers, la découverte du territoire, des interviews à des gens de terrain. Qui leur permettent de découvrir des métiers liés à notre territoire, à notre montagne. Et donc, ce projet vise à promouvoir une citoyenneté active chez les jeunes sur un territoire transfrontalier. Alors, j'arrive à ma conclusion. Il n'y a pas de point faible. Tout marche bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien évidemment, non. Et là non plus, je ne m'attarde pas à faire toute la liste de ce qui ne marche pas. Bon, déjà, monsieur l'assesseur a évoqué certains aspects critiques de notre système, hein, la dénatalité qui posera inévitablement problème pour sauvegarder la diversité de nos écoles et leur présence sur le territoire. Un point sur lequel j'aimerais insister, souligner, c'est la diffusion inégale de la qualité de cette éducation. Hein? Nous avons des écoles d'excellence. Des écoles où les élèves ont plein de possibilités et d'opportunités, et des écoles où, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais où il y a moins de dynamisme. On l'a vu clairement à l'occasion d'une enquête que nous avons menée sur l'internationalisation des établissements scolaires. Eh ben, on avait des établissements scolaires qui faisaient tout, les projets européens, les projets tuning, les échanges, ils accueillaient des stagiaires, ils envoyaient leurs enseignants à l'étranger. Tout ce qu'on pouvait faire, ils le faisaient. Et d'autres établissements scolaires ne faisaient rien. Et là, touche l'un des points fondamentaux de la qualité d'un système scolaire. C'est l'égalité des chances, c'est l'équité. Et là, les mêmes élèves n'ont pas les mêmes chances. Un enfant qui va dans l'établissement A a des possibilités, des opportunités de s'ouvrir au monde, de faire des expériences qui l'outillent, qui le pour être capable d'interagir dans le monde dans lequel nous vivons. Et l'autre, il a un enseignement traditionnel. Et il a très peu d'opportunités de participer de ce mouvement. Comme nous l'avons vu à partir des exemples précédents, l'implication dont l'Europe joue un rôle important dans la promotion du rôle de l'école en tant que lieu de diffusion d'une culture qui sera à la base du développement de notre société, et surtout à l'idée que cette culture doit être ancrée dans un territoire, dans son histoire, et qui doit être au cœur des préoccupations, qui était au cœur des préoccupations de Chanon, et qui a balisé en quelque sorte mon intervention. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.